Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec Apolline. Matin, la flamme olympique arrive à Marseille. Est-ce le premier défi sécuritaire de ces JO? C'est le début donc d'une période sécuritaire sous très haute tension en France. De Marseille à la cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet prochain, les autorités parlent d'un défi sécuritaire hors norme. Camille Chaise est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Elle était l'invitée d'Apolline Matin ce matin et elle se veut rassurante.
Les risques, on les connaît, hein. Il y en a un certain nombre pour le relais de la flamme, pour l'arrivée de la flamme à Marseille, comme pour l'ensemble des Jeux Olympiques. Il y a le risque cyber qui est toujours présent. On pense tous, malheureusement, au risque terroriste, parce qu'on sait que le niveau de menace est élevé, même si les Jeux Olympiques n'ont pas été ciblés en tant que tels. Mais le risque est là, et malheureusement, certains événements, les mois passés, nous ont rappelé que un passage à l'acte est toujours une possibilité. C'est pour ça que le dispositif aujourd'hui à Marseille est en place avec ces filtrages importants. Il y aura des fouilles de sacs, des palpations de sécurité pour que tous les spectateurs qui viennent sur le Vieux-Port soient vraiment présents. Alors, mais avec ce niveau de sécurité.
Péricot, les JO 2024 en France, ils débutent véritablement aujourd'hui chez nous, en France. Est-ce que tu es inquiet?
Le risque, la période, c'est pas les JO en tant que telle. La période que nous vivons, le contexte politique, géopolitique international et les derniers événements depuis une dizaine d'années font qu'on prend un risque énorme. Mais est-ce qu'on doit pour autant arrêter de vivre? Mais on sait, quand ça sera terminé, s'il n'y a rien eu, on dira ouf, on aurait pu passer pas loin de la catastrophe parce qu'il y a évidemment des gens qui vont essayer de troubler. Il y a deux points sensibles qu'on n'a jamais évoqués. Ce sont les 75 grands terroristes qui sont sortis de prison, absolument pas guéris. Ils sont en liberté. Et ce sont des gens qui ont commis des crimes. Et il y a tous ceux qui sont allés faire le djihad à Daesh, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont peut-être revenus sur le territoire français.
Ouais, nos services de renseignement ont quand même un certain nombre d'éléments. Non, les 75 dont tu parles,
l'information.
T'as pas confiance dans la surveillance opérée par nos services de renseignement?
Non, l'information vient des pouvoirs publics.
Donc tu n'as pas confiance dans la surveillance opérée par nos services de renseignement?
C'est des gens qui travaillent pour les pouvoirs publics, qui disent on ne sait pas où ils sont et on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà. C'est la seule ennemie où on pourrait. Pour le reste, on fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est un risque qu'on a couru, on a décidé de le courir. Si ça se passe bien, ouf. Et si on a une catastrophe, on dira, de toutes les manières, on ne pouvait pas tout empêcher, tout arrêter, sinon on ne fait plus rien.
Est-ce que tu es inquiète, Yael?
Oui, moi je suis très inquiète au regard du contexte géopolitique.
Bon, on va dire les choses, c'est quoi? Ce qui t'inquiète, c'est le conflit israélo-palestinien?
Absolument. Évidemment, et le risque d'attentat. Je suis inquiète de savoir comment ça va se passer avec la délégation israélienne. Il y a un passif quand même qui est assez terrible. Enfin, voilà. Mais en même temps, j'ai confiance aux forces de l'ordre de notre pays. Au service de renseignement, donc j'espère que de tout mon cœur que tout se passera bien et que ce sera vraiment une fête.
Benjamin Hamar.
Non, mais il faudrait être complètement déconnecté pour ne pas être inquiet. Et ça n'a rien à voir avec les compétences des services de renseignement.
Ils font leur boulot.
Les services de renseignement, ce sont des humains. Et on sait bien que même des services de renseignement très efficaces peuvent avoir des trous dans la raquette à des moments. On se souvient tous de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et de la mise en cause de la CIA à l'époque sur justement les signaux faibles qu'elle n'avait pas pris en compte. Très récemment, le 7 octobre, les services de sécurité israéliens qui sont réputés parmi les meilleurs, voire les meilleurs au monde, il y a eu une défaillance complète, si bien que le renseignement, d'ailleurs le chef du renseignement militaire a démissionné il y a très peu de temps. Et donc, bien sûr qu'il faut rester, enfin, il faut être inquiet au vu de la situation. D'autant plus que pour ce qui concerne les Jeux Olympiques, on a tous en tête ce qui s'est passé à Munich en 1972. Donc, bien évidemment que, mais on n'a pas besoin de le dire, je suppose que, et j'en suis persuadé que les services de renseignement ont ça en tête. Mais tout ceci, ce sont des événements massifs dans lesquels il y a des foules. À Marseille, énormément de monde est attendu. À Paris, pour la cérémonie d'ouverture, on n'en parle même pas. Et donc, tout ceci, ceci me semble un casse-tête. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qui découlera à la fin sur la cérémonie d'ouverture. Il y a fort à parier que on va se retrouver avec une cérémonie minimaliste et ultra surveillée. Mmh. Donc, bien sûr que de tout notre cœur, on souhaite que ça se passe très bien, mais bien évidemment aussi que légitimement, on partage une inquiétude.
Apolline Matin, on parlait terrorisme ou risque terroriste. Bah justement, on va parler des victimes des attentats. Les victimes des attentats sont-elles les grands oubliés de l'État ? Fred De Wilde, l'un des rescapés du Bataclan, a mis fin à ses jours. C'était dimanche dernier. L'homme était âgé de 58 ans, père de 3 enfants. Il était dans la fosse du Bataclan le soir des attentats, le 13 novembre 2015. Il s'était reconverti en auteur de BD après les attentats. Nicolas Poincaré en a fait le portrait ce matin.
Oui, il s'appelait Fred De Wilde, il avait 58 ans et 3 enfants. C'était un rescapé de la fosse du Bataclan. Au départ, illustrateur médical, il était devenu auteur de bandes dessinées et notamment d'un album intitulé « Mon Bataclan » dans lequel il racontait avec des images terribles et ultra réalistes les 2 heures passées sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015. Il décrivait 2 heures d'enfer plongées dans le sang des autres. Depuis 9 ans, et notamment au moment du procès, il n'avait jamais caché sa dépression. Il s'est finalement suicidé donc dimanche dernier. Sa famille l'a annoncé en saluant son courage, en disant qu'il a été terrassé par la violence de ses traumas et en concluant « Le soldat Fred est tombé, aujourd'hui nous sommes ses héritiers ».
Le soldat Fred est tombé, c'est très poignant ces mots utilisés. Il s'est battu, il n'a jamais cessé de se battre depuis le 13 novembre. C'est terrible, Yael.
On se rend compte que
l'attentat du 13 novembre est toujours. C'est terrible ce que je veux dire, mais il est toujours en cours quelque part. Parce
absolument.
Que c'est...
Il faut bien. Enfin, évidemment qu'on mesure l'horreur de ce que ces personnes, ces rescapés ont vécu, mais c'est-à-dire ce sont des véritables traumatismes de guerre. Hein. Voilà, c'était un terrain de guerre. Enfin, je veux dire, les intervenants, les policiers, c'était une scène de guerre. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, il y a en Israël, il y a déjà des rescapés du 7 octobre qui se suicident. Voilà. Enfin, je veux dire, quand on est dans des scènes de guerre comme ça, on a les traumatismes d'une exceptionnelle gravité qui vont avec, et quand bien même il y aurait un soutien psychologique, parfois la souffrance est trop envahissante, et pour s'en libérer, hélas, la seule manière que ces personnes qu'ils ont, c'est le passage à l'acte suicidaire. C'est terrible.
Ce constat ne me suffit pas. Je connais des gens qui ont vécu la tragédie du 14 juillet à Nice, qui ont vu des gens écrasés sous leurs yeux, des enfants par le camion. J'aimerais bien qu'on prenne quand même le 7 octobre et Gaza, même chose. Tout ça, c'est une tragédie. Sur la même thématique, on a quand même, à un moment donné, l'intégrisme musulman qui est là, qui, heureusement, représente une minorité de cette religion, mais ils sont actifs. Est-ce qu'on a pris, aujourd'hui, c'est bien de se lamenter sur les victimes, et là, c'est la dernière victime. Ça veut dire que la plaie est encore ouverte et qu'elle saigne. Est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires et courageuses pour que ça ne se reproduise plus, ou peu, ou moins ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un attentat pendant les Jeux Olympiques. On va faire au maximum. Hein, mais ce mal est là, il sévit. On sait que Daesh est en train de se reconstituer. Les menaces continuent et ils sont en action permanente. Donc on n'est pas du tout sorti de la tragédie.
Benjamin.
Le respect pour les morts, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Pour l'instant, tout n'a pas été fait, c'est pas vrai.
Benjamin.
Mais alors, je vois le bandeau « Grande victime de l'État », point d'interrogation, de l'État sans doute, mais j'ai l'impression, moi je vous livre mon opinion, c'est très subjectif, mais j'ai le sentiment que, pour le coup, puisque on parlait de patriotisme tout à l'heure, la solidarité nationale autour de ces victimes, moi je la trouve pas au niveau.
Voilà.
Je le dis franchement.
Tu as raison.
Et là, pour le coup, c'est pas forcément l'État. Il y aurait un bilan à faire, mais nous, collectivement, je trouve que ce drame qui a été terrible. Enfin, on se souvient tous de comment, pendant plusieurs jours, Paris a été mis sous cloche. Je trouve que ça n'a pas été dirigé, ça n'a pas été digéré par la société. Je ne trouve pas.
C'est-à-dire qu'on est passé trop vite à autre chose.
Ouais, c'est ça, et que l'expression de la solidarité collective. Je ne l'ai pas perçu, ressenti.
J'entends ce que tu dis, et j'essaie d'apporter une certaine contradiction, mais est-ce que justement, c'est pas ça la victoire contre le terrorisme ? C'est de ne pas C'est terrible hein, pour les victimes, c'est de passer à autre chose.
Qu'on passe à autre chose, enfin qu'on continue à vivre, c'est une chose.
Pas d'ignorer,
mais il y a eu des victimes et qui souffrent et on le voit bien à travers cet acte terrible. Donc il y a un moment où enfin il y a des drames qui se passent dans un certain nombre de pays et il y a l'expression d'une solidarité collective. Absolument. Là pour le coup, tu vois, bien plus que les célébrations du 8 mai qui pour moi c'est pas un sujet, ça c'est un sujet. Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus enfin moi quand vous discutez autour de vous les gens avec qui je discute de d'horizons divers, j'ai pas l'impression que ça il y a eu un avant et un après.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, d'autant que il y a des hommages des victimes de ces actes terroristes, mais on rend hommage aux morts. Or, ces actes terroristes sont des bombes à fragmentation pour ceux qui restent. Il y a des blessés qui ont des blessures physiques, il y a des blessés qui ont des blessures physiques et psychologiques et qui ne s'en remettront jamais. Et c'est effectivement
le problème, c'est
que
la société de consommation reprend le dessus et qu'on revient vers la console avec le chariot parce que la vie continue, il faut consommer. La vérité, elle est là.
Les GG, parents séparés, faut-il instaurer un devoir de visite pour les pères absents? Dans un entretien au magazine Elle, le président de la République a fait part de sa volonté d'ouvrir un débat sur le droit de visite des pères dans les familles monoparentales, sur le devoir. C'est un devoir d'être parent, dit-il. Du blabla pour Didier Giraud, chroniqueur des GG.
On en fait souvent le constat, une partie des problèmes qu'on a dans la société française et par rapport à la jeunesse, c'est les problèmes d'éducation. Que ces problèmes d'éducation sont souvent liés au rapport à l'autorité et que dans les familles, c'est parfois le père qui incarne le plus l'autorité. Quand le père, il a choisi d'être absent, moi je suis d'accord que Macron, il s'intéresse au sujet, mais qu'est-ce qu'il a comme moyen pour rendre le père présent quand il est absent?
Aucun.
Moi, je crois que c'est du blabla une fois de plus.
Ah non,
et que tu n'as aucun moyen de contraindre le père à assumer sa part d'éducation de ses enfants quand il a choisi d'être absent.
Yael Mellul, ancienne avocate, fondatrice de Femmes et Libres. Est-ce qu'il faut imposer, comme en tout cas y réfléchit Emmanuel Macron, un devoir de visite pour les parents qui seraient absents, dans une immense majorité des cas, le père?
Alors non, de manière catégorique c'est non, et en plus de ça, je vais rajouter que c'est une très 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 mauvaise idée, et en plus, le pire d'ailleurs, c'est que ça démontre la méconnaissance, voire l'ignorance totale en réalité de ces problématiques de parentalité, parce qu'il faut quand même savoir que la majorité des familles monoparentales, qui sont donc des femmes, 60% sont des femmes, et elles sont victimes de violences conjugales, ces femmes-là. D'accord, donc je dis 60%.
Non, tous, oui.
Donc quand on dit qu'on veut instaurer un devoir de visite pour le père, c'est qu'on ne comprend rien en réalité aux violences intrafamiliales. Alors que nous sommes, tous les experts qui travaillons sur les violences intrafamiliales, nous nous battons depuis des années et des années pour que précisément ce droit de visite soit limité au maximum pour les pères, les ex-conjoints qui sont violents. De dire qu'un conjoint, un ex-conjoint violent est de fait un père violent. Donc on ne vienne pas nous dire qu'aujourd'hui on va systématiser un droit de visite pour les pères. Sous quelles conditions? C'est encore une mesure qui est sortie comme ça à l'emporte-pièce, sans a priori avoir qu'il n'y ait de véritables professionnels de la question qui a été consulté. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
Péricot, voilà. Très court.
De quoi il se mêle? De quoi il se mêle? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas un président de la République qui va décider.
Exactement.
Rapproche-toi de ton micro.
C'est pas un président de la République qui va décider qu'un père agressif, on doit l'obliger d'aller voir ses enfants. Il faut voir au cas par cas, et c'est des sujets, je pense, qu'il le dépasse. Il a plein d'experts autour de lui. Là, visiblement, il a été ou pas ou mal conseillé.